France Culture.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'Esprit Public. Aujourd'hui, Trump se rapproche de Poutine, une menace pour l'Ukraine, pour l'Europe, pour l'Allemagne. Et programme chargé à nouveau ce dimanche, puisque nous allons évoquer le rapprochement spectaculaire entre Donald Trump et Vladimir Poutine, au détriment de l'Ukraine, face à des Européens qui tentent de sortir de leur sidération, et alors que les Allemands votent aujourd'hui pour élire leurs députés dans un scrutin sous influence russe et américaine. Nos débatteurs ce dimanche, Anne-Lorraine Bujon, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la rédaction de la revue Esprit, le dernier numéro, que devient le travail intellectuel ? Jean-François Colosimo, bonjour.
Bonjour.
Directeur des éditions du CERF, votre dernier ouvrage chez Albin Michel, Occident, ennemi mondial numéro 1. Sylvie Kaufmann, bonjour.
Bonjour Hervé.
Éditorialiste au Monde, votre dernier livre, lui, c'est chez Stock. Les aveuglés, comment Berlin et Paris ont laissé la voie libre à la Russie. Et Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Consultant en affaires européennes, vous êtes enseignant à l'ESCP Business School et au corps des mines Paris Tech. Vous êtes l'ancien directeur de l'Institut Jacques Delors. Et on commence notre émission par un lâchage, voire un lynchage. Portrait de Volodymyr Zelensky, vu par Donald Trump.
Il refuse les élections. Il a un mauvais score dans les sondages ukrainiens. Comment pourrait-il faire un bon score alors que chaque ville se fait démolir? Un dictateur sans élections, Zelensky ferait mieux de se dépêcher. Sinon, il ne lui restera plus de pays. Il faut qu'il se dépêche, il faut qu'il se dépêche.
Un dictateur sans élection, voici donc ce que répond Donald Trump quand on lui demande d'évoquer Volodymyr Zelensky. Véritable uppercut en direction de celui qui est censé être son allié, tout en cajolant d'une autre main Vladimir Poutine, bien connu lui pour son respect des procédures démocratiques. Et au cas où certains penseraient que ces mots ont dépassé sa pensée, le président américain a enfoncé le clou sur le cercueil des relations entre les États-Unis et l'Ukraine, en déclarant vendredi que la présence de Zelensky au pourparlers pour mettre fin à la guerre avec la Russie, que sa présence n'était pas très importante, que cela fait 3 ans qu'il est en réunion et rien n'a été fait, que l'Ukraine n'a aucune carte en main. En quelques jours, le monde tel que nous pensions le connaître depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de basculer dans une configuration inconnue jusque-là. Les États-Unis, premiers contributeurs à l'effort de guerre ukrainien, principaux partenaires des Européens, partenaires et protecteurs, semblent vouloir opérer un virage à 180 degrés. Comme l'écrit le New York Times, Trump est en train d'exécuter l'un des retournements les plus stupéfiants de la politique étrangère américaine depuis des générations. Il donne l'impression que les États-Unis pourraient changer de camp. Alors ce qui est certain, c'est qu'il y a du réchauffement dans l'air entre Washington et Moscou. Fini le retour de la guerre froide. C'est d'ailleurs dans un pays connu pour ses fortes chaleurs que le rapprochement a été scellé mardi, l'Arabie Saoudite. Marco Rubio et Sergueï Lavrov, les chefs de la diplomatie américaine et russe, s'y sont rencontrés afin de préparer le terrain à règlement du conflit en Ukraine et à une rencontre dans le même pays, probablement, entre Trump et Poutine. Il est vrai que les deux hommes semblent partager une certaine proximité dans leur vision du monde. Citons cette fois le Financial Times. Le président russe est perçu par son homologue américain comme un guerrier qui se bat pour son pays et pour les valeurs conservatrices. Alors de quoi envisager une idylle ? L'avenir le dira. Il dira aussi si les Européens n'auront comme seul choix que de tenir la chandelle. Spectateur médusé et pour l'instant apparemment impuissant face à un monde qui bascule sans le moindre égard pour ceux qu'ils sont. Je commence avec vous, Anne-Lorraine Bujon. On a beaucoup lu dans la presse toute la semaine qu'on venait d'assister à un tournant, peut-être même à un virage à 180 degrés de la part des États-Unis, et un tournant dans l'histoire des relations internationales. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Ah oui, je pense que vraiment ce retournement est proprement stupéfiant. Donc on peut parler de réchauffement américano-russe, mais on sent bien que c'est trop faible. Il faut aussi dire, je crois, que ça ne tombe pas du ciel, qu'il y a eu des signes avant-coureurs depuis le premier mandat Trump, en fait, des signes qu'on n'a peut-être pas voulu voir. Mais ce qui est clair, c'est que là, Trump et son administration délivrent à Poutine finalement ce dont on peut considérer que c'est sa propre première victoire stratégique, sa première victoire diplomatique, en fait, depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022. Donc, il y a tout ce qui se passe dans le champ diplomatique et symbolique, ce coup de fil entre Poutine et Trump, et puis, bien sûr, la rencontre Rubio-Lavrov. Mais il y a aussi tout ce qui se passe au plan idéologique, et on ne peut qu'être frappé, en fait, d'une convergence idéologique de fond, là, entre la droite trumpiste et la vision du monde de Vladimir Poutine. Vous y avez fait allusion tout à l'heure, mais...
C'est quoi cette convergence? C'est la force qui parle? Ce sont les idées conservatrices?
Non, je crois qu'elle joue à beaucoup de niveaux. Donc, les idées conservatrices, une obsession de la question du genre, de la question de la famille traditionnelle, nucléaire, qui, par ailleurs, se porte très mal en Russie, hein, il faut le dire. Mais cette chasse aux homosexuels, chasse aux personnes trans, vous savez que ça fait des années que Vladimir Poutine dit que l'Occident est faible parce qu'il est efféminé et qu'il est réellement obsédé par cette question de genre. C'est évidemment un rapport plus que lâche à la règle de droit, on va dire, aux tribunaux, aux contre-pouvoirs. Alors en Russie, il n'existe plus du tout, mais là, Trump fait tout ce qu'il peut pour les détruire. C'est une sorte de vision néo-impérialiste du monde, bien sûr, où il n'y a plus que des grands espaces schmittiens et chacun doit avoir accès aux ressources qui sont les plus proches de chez eux. C'est un rapport à la vérité, à la mémoire historique, à la rationalité scientifique. Donc, il faut aller voir tout ça hein, qui était dans le discours de Vance à Munich, qui a laissé les Européens tétanisés. Le discours de Vance à Munich, pour moi, c'est un discours crypto-poutinien, quoi. Enfin, cette convergence idéologique me semble réelle et profonde. Alors, les États-Unis, ça ne se limite pas à Donald Trump et aux gens qui le suivent. Il faut toujours s'en souvenir. Mais en tout cas, pour ce qui est de cette droite MAGA, oui, je pense qu'il se trouve beaucoup de points communs avec la Russie de Vladimir Poutine.
Juste une petite précision, Anne-Laurent Bujon, quand vous parlez d'un espace schmittien, c'est quoi? C'est la référence à Carl Schmitt?
C'est la référence à Carl Schmitt, effectivement, ou à ce que Hannah Arendt appelait les empires continentaux. Donc c'est l'idée qu'il y aurait un monde divisé entre grandes puissances qui entretiennent chacune leur sphère d'influence. Et puis aujourd'hui, il faudrait aussi mélanger ça à la question du capitalisme et de ses mutations, mais je ne veux pas nous entraîner trop loin.
Yves Bertoncini, si on devait compter les points au terme de cette semaine un peu folle, est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire, alors une victoire évidemment provisoire, mais pour Vladimir Poutine, et que c'est peut-être aussi surtout un camouflet pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky?
Oui, je crois que vous avez bien résumé en parlant de lâchage de l'Ukraine. Ça, on pouvait s'y attendre. Le lynchage de Zelensky, c'était plus surprenant. Tout ça s'inscrit dans une tectonique des plaques qu'on voyait venir. La tectonique des plaques, c'est que les Américains se retirent d'Europe progressivement, qu'ils se tournent vers l'Asie-Pacifique, qu'ils ont été ramenés en Europe par le conflit ukrainien, Joe Biden, enfin l'invasion russe de l'Ukraine, plus précisément. Joe Biden a fait ce qu'il croyait devoir faire. On savait que Trump était à la fois tourné vers la Chine et plus isolationniste. La tectonique des plaques était là, mais quand le tremblement de terre advient, ça secoue tout de même, surtout que là, il advient à l'échelle, l'échelle de Richter, de relations transatlantiques, c'est à 9. On est à 9 avec des répliques successives, parce que je souscris à ce qui a été dit par Anne-Laurent Bujon. Les États-Unis étaient nos alliés, ils se comportent désormais comme nos adversaires. Les adversaires sur le plan commercial, on le savait, nous sommes, nous, Européens, très excédentaires, ça énerve beaucoup Trump. Adversaires sur le plan idéologique, ça a été rappelé, le discours de Vance à Munich est assez évocateur. Et puis aussi, adversaires sur le plan diplomatique, en attendant peut-être même qu'ils le deviennent sur le plan militaire, si M. Trump voulait s'arroger le contrôle du Groenland par la force, comme il l'a envisagé. Et donc, c'est un tremblement de terre pour les Ukrainiens, parce qu'ils se font lâcher, mais c'est aussi un tremblement de terre pour les Européens, pour les Allemands qui votent aujourd'hui, et il va falloir y réagir. Ce ne sont plus, ils ne se comportent plus comme des alliés, ils se comportent comme des adversaires. Est-ce qu'on peut encore en faire des partenaires? Ça, c'est ce qu'on va voir dans les prochains jours. Monsieur Macron va aller à Washington ce lundi, Keir Starmer jeudi prochain. On verra au-delà des oukases et des foucades de Donald Trump, ce qui restera de tout ça une fois que la poussière de ce tremblement de terre sera un peu retombée.
Qu'est-ce que ça veut dire pour les Ukrainiens, Sylvie Kaufmann, ce qui est en train de se passer? Est-ce que ça veut dire qu'on a deux grandes puissances, les États-Unis d'un côté et la Russie, qui vont passer des tractations pour se partager l'Ukraine?
Je pense que pour les Ukrainiens, c'est tout simplement une question de survie. Est-ce que leur pays peut survivre à ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire deux grandes puissances qui vont discuter du sort de l'Ukraine au-dessus de leur dos, enfin au-dessus de leur tête. Vous l'avez bien dit, Zelensky, aucun représentant ukrainien n'est associé pour l'instant à ces entretiens, à ce début de négociation russo-américaine. Et visiblement, il n'est pas envisagé de les associer.
Même si le chef de la diplomatie américaine a l'air d'avoir des propos un peu plus inclusifs, on va dire.
Voilà, alors ils disent oui, mais vous voyez, ils disent qu'il y a deux canaux parallèles. Hein. Il y a effectivement des contacts entre les Américains et les Ukrainiens. Mais alors, regardez de quel contact il s'agit, de quelle proposition il s'agit. Et c'est absolument, ça c'est extraordinaire. La proposition, enfin c'est même pas une proposition, c'est une exigence qui est posée aux Ukrainiens, au départ par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui est allé à Kiev et qui a présenté au président ukrainien, Volodymyr Zelensky, un document d'une page qui est tout simplement un contrat demandant à l'Ukraine de céder aux États-Unis la moitié de leurs minerais, des minerais de l'Ukraine et des terres rares. On parle beaucoup de transactionnel, on dit que Donald Trump est transactionnel. Là, je crois qu'on est vraiment dans la plus pure forme du transactionnel. Alors, Volodymyr Zelensky a refusé ce contrat parce qu'il n'était assorti d'aucune garantie de sécurité. Il a dit, alors plusieurs témoignages ont raconté comment s'était passée cette rencontre. Zelensky a dit non, je ne peux pas signer ça comme ça, dans cette forme-là. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, a insisté en disant, je crois que ça plairait beaucoup à Washington si vous ne le signez pas. Et Zelensky a tenu bon, a dit il faut qu'on regarde ça de plus près avec mon équipe. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire, les Ukrainiens, parce qu'ils sont acculés véritablement. Et donc, ils passent du rapport à un allié américain qui était un allié. C'est-à-dire que 24 février 2022, troisième anniversaire demain, la Russie envahit l'Ukraine et les Américains immédiatement, au bout de quelques jours, après avoir compris que les Ukrainiens allaient résister et que l'Ukraine n'allait pas tomber, apportent leur secours à l'Ukraine et véritablement sauvent l'existence de l'Ukraine. Parce qu'on est tous d'accord que sans l'aide militaire ukrainienne d'abord, puis européenne...
Américaine, vous voulez dire.
L'Ukraine n'existerait plus. Et aujourd'hui, il se trouve en présence du même pays, mais dirigé par un président qui ne parle plus du tout ni d'inviolabilité des frontières, ni de droit international, ni de quoi que ce soit. Aucun de ces principes qui étaient ceux sur lesquels était fondée l'intervention de l'administration Biden, mais dont la seule motivation visiblement est « je veux un cessez-le-feu, quel qu'en soit le coût », pour pouvoir dire « je suis le président de la paix et j'aurai le prix Nobel de la paix », parce que maintenant c'est explicitement dit que c'est ça son objectif, et qui introduit un élément purement mercantile dans le rapport avec le pays agressé. Donc pour l'Ukraine, je crois que c'est vraiment aujourd'hui une question de survie, en effet.
On peut parler de menaces existentielles pour l'Ukraine aujourd'hui, Jean-François Colosimo ?
Bien entendu, mais il y a tout de même, une chose qu'il faut bien voir. C'est bon, d'abord, contrairement à ce que dit Donald Trump, Zelensky n'est pas à 4% d'opinion positive, mais à peu près 57%, et je pense que c'était avant les annonces de Donald Trump. Aujourd'hui.
Oui, parce que ça risque de renforcer quand même l'union des Ukrainiens derrière leur président.
Une cohésion nationale au sein d'un peuple très fatigué par la guerre, très meurtri par la guerre, mais un peuple qui a montré jusqu'ici un courage... étonnant, n'est-ce pas? Donc, de ce point de vue-là, je dirais que les Ukrainiens sont plus que jamais convaincus, qu'ils ont à défendre de manière acharnée leur liberté, mais qui est aussi la nôtre. C'est tout le discours de Zelensky de rappeler que Poutine ne s'arrêtera pas à la ligne de cessez-le-feu qui serait acceptée par Donald Trump. Ensuite, il est évident aussi que Zelensky n'est pas un dictateur, puisque c'est dans la constitution ukrainienne, il faut le rappeler, n'est-ce pas, qu'en état d'urgence, en état de guerre, il ne peut pas y avoir d'élection. Mais ce que fait tout de même Donald Trump, ce lynchage que vous caractérisez d'un mot juste, c'est qu'en fait, il livre aussi Zelensky à ses adversaires politiques, puisque l'Ukraine est plus démocratique qu'on ne pourrait penser, plus démocratique, mais encore, je dirais, à un stade de démocratie quelque peu sauvage à la sortie du communisme et autres. Et donc, je dirais que cette façon de dire à Zelensky qu'il n'existe pas, eh bien, c'est quelque chose de très menaçant, je dirais. Alors, pas existentiellement menaçant, pas pour l'Ukraine, mais pour Zelensky lui-même, soyons clairs. C'est vraiment le désigner au meurtre, n'est-ce pas ? Ça, c'est clair. Alors, Trump a beaucoup de raisons pour cela, personnelles, vindicatives, qui sont entre autres le refus que Zelensky avait opposé de servir instrumentalement l'incrimination du fils de Joe Biden, qui, il est vrai, avait réalisé des affaires troubles en Ukraine, mais Zelensky n'avait pas voulu se mêler de cette affaire américano-américaine. Voilà. Donc, on en est là. Maintenant, je dirais, tout va dépendre de la manière dont l'Europe va se mobiliser, et de ce point de vue-là, le retour de l'Angleterre me semble tout à fait significatif, crucial.
Alors on va évoquer dans un instant justement la façon dont les Européens peuvent se positionner face à cette nouvelle donne. Encore un mot, Yves Bertoncini, on voit que Donald Trump, il reprend en partie le narratif de Vladimir Poutine, notamment sur le fait justement que ce serait un dictateur qui serait à la tête de l'Ukraine, que si la guerre a eu lieu, c'est parce que l'Ukraine avait des velléités de rejoindre notamment l'OTAN. Mais est-ce que ça n'est pas aussi finalement se placer en position de faiblesse par rapport au président russe que de s'aligner justement sur ce narratif-là?
Oui, absolument. C'est stupéfiant parce que la Russie n'a pas gagné cette guerre. Elle a envahi l'Ukraine, souvenons-nous. Au bout de 2 semaines, on pensait qu'elle allait tout prendre. D'ailleurs, Joe Biden a appelé M. Zelensky pour lui proposer un avion. Et il a dit non, mais moi, j'ai pas besoin d'un avion, j'ai besoin d'armement. Bon, c'est factuel hein, quand on dit cela. À l'heure où on se parle, M. Poutine a fait des référendums d'autodétermination pour 4 oblasts qui sont officiellement russes aujourd'hui. Il n'en contrôle qu'un. Celui de Louhansk, c'est tout, pas les 3 autres.
Un oblast, c'est une région.
L'Ukraine est en Russie, dans la région de Koursk. La Russie est tellement aux abois qu'elle fait venir de pauvres soldats nord-coréens qui se font trouer la peau. Donc il y a plein de signes qui montrent que les Russes ne progressent plus, et donc il n'y a pas vraiment de gain militaire, mais c'est une victoire diplomatique éclatante, parce que vous l'avez dit, Vladimir Poutine reçoit de Trump tout ce qu'il n'osait même pas demander, c'est-à-dire on va évidemment arrêter la guerre sur les lignes de front, et encore, c'est même pas sûr, est-ce qu'on lui donnerait pas les 4 oblasts d'un coup? On va interdire à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN, on va peut-être effectivement changer de régime, parce que Zelensky, il faudrait le dégager. Alors évidemment, si il y a des élections, il y en aura un jour, et qu'il est remplacé par Zaloujny, l'ancien chef d'état-major, bon, ça sera le sort qu'a eu Churchill au Royaume-Uni. Il a bien résisté, et puis les Anglais l'ont débarqué pour quelqu'un d'autre. Mais si Poutine arrivait à mettre, comme il le fait en Géorgie, un affidé, ça serait, je dirais, un triomphe diplomatique complet pour la Russie, sans raison apparente, autre que peut-être effectivement des convergences plutocratiques sur l'exploitation des matières premières critiques ukrainiennes. Parce que il y avait une façon de se retirer pour les Américains. Ils sont coutumiers de se retirer des retraits. Ils l'ont fait en Afghanistan.
Lâcher leurs alliés.
Jadis, ils l'ont fait au Vietnam. Oui, au Vietnam, Kissinger avait dit il faut un intervalle de décence. Mais bon, la décence, c'est pas quelque chose qui, pour Donald Trump, est une notion importante, j'ai l'impression.
Anne-Laurent Bujon, comment les Américains peuvent réagir à ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire que, j'imagine, quand on est Américain, on a été un peu biberonné à la guerre froide, à l'anticommunisme, à l'antisoviétisme. Les Américains, a priori, parmi leurs adversaires, il y a évidemment la Chine, mais il y avait aussi la Russie. Est-ce que l'opinion publique américaine peut réagir de quelle manière par rapport à ça?
Et je trouve que vous avez raison, c'est ce qu'on attend avec angoisse, de se dire, mais enfin, quand même, quelqu'un va se soulever, quelqu'un va résister, quelqu'un va protester. Mais je crois que ce qu'on mesure aussi dans ce moment, bon, c'est d'abord la sidération des opposants de Donald Trump, le Parti démocrate qui a reçu un énorme coup sur la tête et qui ne s'en remet pas et qui est littéralement à faune. Mais on mesure aussi le point auquel, et on nous l'a dit ça, que Donald Trump avait fait une OPA sur le Parti républicain et que donc des républicains, la droite conservatrice, bon teint, internationaliste, ce que représentait un Bush senior par exemple, il n'y en a plus ou il n'y en a presque plus. Il y en en a un qui restait, qui est une personnalité un peu visible, qui est Mitt Romney, par exemple, qui est mormon, et ça n'est pas neutre, parce qu'il y a beaucoup de mormons dans l'appareil de sécurité nationale, de défense, dans la diplomatie, et ce sont des gens qui, culturellement, ont un sens de l'intérêt général, de l'intérêt national. Donald Trump, là, il se comporte pas en homme d'État, il se comporte en chef de bande, il récompense ceux qui le flattent, il punit ceux qui lui tiennent tête. Et donc, on se dit, oui, il y a des gens qui sont préoccupés de l'intérêt national des États-Unis qui vont s'émouvoir en fait de cette victoire qu'ils délivrent sur un plateau à l'adversaire de toujours. Ce qu'on peut dire, c'est que pour l'instant, c'est quand même extraordinairement timide. Donc il y a bien un ou deux sénateurs, qui Tom Tillis par exemple, qui a essayé de prévenir de ce que représente la menace russe aujourd'hui. Mais il faut voir que dans le même temps, il y a ce changement de personnel dans tout l'appareil de sécurité, la CIA, le FBI, des purges, des véritables purges. Et moi, j'ai vu arriver dans les journaux le Pentagone, coupe de budget et changement du personnel. Donc le plus haut gradé là du Pentagone, qui a été remercié et à la place duquel on va mettre un général qui était à la retraite et dont on dit qu'il est absolument loyal à Trump. Mais si vous voulez, s'il y a des purges dans l'armée américaine qui, on l'a souvent répété, est au service de la Constitution et des civils, si le rapport civil-militaire change, c'est plus qu'inquiétant. Donc bien sûr, le sentiment anti-russe, il n'a pas disparu du jour au lendemain, mais il y a de plus en plus de gens aux États-Unis, des personnalités publiques comme Tucker Carlson, par exemple, mais aussi des responsables comme Tulsi Gabbard, chef du renseignement national maintenant, qui sont ouvertement pro-russes.
Alors venons-en maintenant aux Européens. Jean-François Colosimo, on voit donc Donald Trump prend son téléphone pour appeler Vladimir Poutine. Est-ce que les Européens ne sont pas en train peut-être de se mordre les doigts d'avoir totalement rompu les relations avec le président russe? On se souvient qu'au début de la guerre, Emmanuel Macron avait adopté justement l'idée qu'il fallait discuter, continuer à discuter avec Poutine. Finalement, peut-être qu'il avait raison à ce moment-là et qu'il aurait fallu quand même garder un lien pour ne pas être totalement hors-jeu de ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Je pense qu'il y a deux choses assez différentes. D'abord, la première, c'est que lorsqu'Emmanuel Macron cherche encore à parler avec Poutine, on est juste au début du conflit, il s'agit d'éviter que cette opération spéciale, telle que Poutine l'a pensée, c'est-à-dire débarquer à Kiev, tuer Zelensky, prendre le pouvoir et instaurer une Ukraine à sa botte. Donc cette opération spéciale va échouer, on va basculer dans la guerre, mais il y a tout un temps où en fait il s'agit précisément d'éviter ce basculement, même si en fait Poutine y était lui de son côté tout à fait prêt et résolu. Mais bon, la diplomatie c'est exactement ça, c'est la capacité à essayer d'éviter le pire, n'est-ce pas ? Depuis, le tournant du régime poutinien fait qu'il est tout à fait inconcevable qu'on puisse prendre Poutine comme un interlocuteur, n'est-ce pas ? Puisque la situation, outre évidemment les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre commis en Ukraine, crimes contre l'humanité, c'est évidemment le rapt des enfants ukrainiens condamnés à devenir, des Poutiniens, n'est-ce pas ?
Et qui voit Poutine d'être poursuivi, d'avoir un mandat d'arrêt international contre lui.
Par la Cour pénale internationale. Donc, la manière dont il détruit l'Ukraine, mais la manière aussi dont il détruit la Russie. Pensez à la mort de Navalny, pensez au fait que les Russes qui pensent sont aujourd'hui soit en prison, soit en exil, ou morts, n'est-ce pas ? Donc, tout ça fait que c'est vraiment, je dirais, à peu près inconcevable de considérer que l'on puisse parler à Poutine en dehors d'un règlement de la guerre en Ukraine qui associerait complètement l'Europe en soutien à Zelensky qui serait l'interlocuteur alors de Poutine, n'est-ce pas ? Maintenant, si la résolution du conflit, c'est une conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, on connaît le résultat. Alors moi, ce que je pense que ce qui se passe, c'est quelque chose qui était quand même un temps soit peu prévisible, je m'étais forcé de le faire en tout cas, sans être fin au point de le citer, mais ce qui est très surprenant, c'est le caractère franc, direct, accéléré de tout cela. Mais le retour de l'Amérique à sa vocation de république impériale, qui est une vocation originelle, n'est-ce pas ? Et la fin un peu de l'entretien dans lequel se sont mis les Européens, qu'il y aurait une bonne Amérique et une mauvaise Amérique, tout ça tombe sous nos yeux, Et je crois que c'est là où en sont les Européens aujourd'hui. C'est-à-dire, mais en même temps, l'unilatéralisme américain, on le subit au moins pour ce qui est de notre génération depuis George W. Bush, qui nous a menti à l'ONU. Je veux dire, Barack Obama était très policé, il faisait espionner nos dirigeants. Joe Biden, n'est-ce pas, a volé à la France un marché en Australie sans même prendre la peine d'alerter Macron. Donc il faut quand même arrêter de raconter des choses, d'être dans le monde des bisounours, en quelque sorte, et de confondre la politique de Washington avec Walt Disney.
Je reste encore un instant sur Poutine, Sylvie Kaufmann. Vous êtes d'accord avec Jean-François Colosimo? Ce serait inconcevable pour les Européens aujourd'hui de discuter avec Poutine, quitte à laisser Trump et Poutine discuter entre eux?
C'est vrai que non, ils peuvent discuter avec Poutine, mais Poutine n'a aucune envie de discuter avec eux, de toute façon. Et c'est vrai que ce qu'a fait Poutine depuis 3 ans fait que le dialogue est pratiquement impossible. Et comment Trump se met-il à dialoguer avec Poutine en épousant ces théories? Donc, je crois que les Européens ne sont pas prêts à le faire, et ils ont raison. Parce que le cadeau énorme, Yves Bertoncini a très bien expliqué ça tout à l'heure, mais j'ajouterais que l'énorme cadeau qu'a fait Trump à Poutine, c'est de traiter la Russie d'égal à égal. C'est ce dont Poutine rêve depuis le début. Vous savez, il y a les sommets américano-soviétiques, Poutine en a la nostalgie. C'est vraiment les deux grandes puissances qui discutent d'égal à égal. Et ça, il n'y avait plus droit depuis que l'Union soviétique n'existe plus et que la Russie lui a succédé et que Obama avait traité la Russie de puissance régionale. Donc maintenant, il est remonté sur ce piédestal par Donald Trump. Je pense que les Européens ont raison de ne pas emprunter le même chemin. Mais cela dit, il faut que les Européens, maintenant, ils se dirigent vers les États-Unis et ils vont essayer d'infléchir la démarche américaine qui est d'épouser totalement d'essayer d'obtenir un cessez-le-feu qui ne soit pas en faveur de l'Ukraine, qui soit en faveur de la Russie. Et c'est effectivement ce que vont faire Macron et le Premier ministre britannique. Mais si vous voulez, les Européens sont en train de subir, ils sont face à deux défis. Ils sont défiés sur le plan idéologique, comme l'a très bien dit Anne Lorraine tout à l'heure, et puis ils sont défiés sur le plan stratégique, c'est-à-dire que l'alliance transatlantique n'est plus. Et donc, ça, c'est l'autre pilier qui s'effondre.
Emmanuel Macron, alors, qui a multiplié les initiatives, les réunions toute cette semaine, et donc, qui sera à Washington demain, reçu par Donald Trump. Il s'est exprimé sur cette visite et sur ce bouleversement du monde. C'était jeudi, dans une discussion avec des internautes.
France Culture, l'esprit public. Hervé Gardette.
Ça fait une quinzaine d'années que les États-Unis d'Amérique nous disent à plusieurs reprises, vous n'êtes plus notre priorité. On rentre dans une nouvelle ère. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix. On va devoir réinvestir encore plus, Français et Européens, et on va devoir renforcer notre défense et notre sécurité. C'est pas que les armées. Voilà, je sonne un peu le tocsin ce soir, parce que j'ai la conviction qu'on rentre dans une ère nouvelle. Et elle va nous imposer des choix.
Cette ère nouvelle dont parle Emmanuel Macron et Yves Bertoncini, c'est notamment une ère dans laquelle les États-Unis ne sont plus vraiment nos alliés. Faut la penser comme ça.
En tout cas, ils ne se comportent plus comme des alliés. Il y aura un sommet intéressant de l'Alliance Atlantique en juin à La Haye. On verra bien ce qu'il en sera. Il n'y a pas eu de sortie de l'OTAN des États-Unis jusqu'ici. Il y a une demande, et Jean-François Colosimo l'a rappelé, qui est ancienne, de partage du fardeau. Ça fait depuis les années 60 que les Américains nous demandent d'en faire plus en matière de défense. Donc, il faut en faire plus en matière de défense, sachant que c'est un allié très fragile, pour ne pas dire instable, et très peu fiable. Donc il faut d'autant plus le faire qu'il y a une guerre en Ukraine liée à une invasion russe, et qu'au-delà de l'Ukraine, nous pourrions être visés par la Russie, et nous le sommes déjà, parce que nous sommes dans une guerre hybride face à la Russie. Et donc,
il faut en faire plus en matière de défense, parce que c'est ce que demandent les Américains, ou il faut en faire plus parce que de toute manière, on n'a pas le choix, en raison du retrait américain?
Non, il faut en faire plus parce que nous sommes menacés. Nous sommes menacés par la Russie, et nous ne sommes plus protégés par les Américains. Il y a eu 3 moments historiques pour les Européens après la Deuxième Guerre mondiale. À l'époque, c'était Truman et Staline. Nous avions peur de Staline. Et Truman nous a quand même aidé, enfin l'Europe de l'Ouest en tout cas, à lancer la construction européenne. Et il fallait nous protéger contre Staline à un moment où d'ailleurs il y avait une guerre en Corée. Et on se disait, la guerre en Corée, les prochains, ça sera nous, ce sera l'Allemagne. L'Allemagne à l'époque d'ailleurs aurait pu se réarmer dans le cadre d'une communauté européenne de défense que le Parlement français a rejetée. Et donc elle s'est réarmée dans le cadre de l'OTAN. Truman et Staline, c'était aussi des pères fondateurs de l'Europe. Bien aujourd'hui, c'est Trump et Poutine. Eh bien, Trump et Poutine, la seule différence, c'est que Truman et Staline se faisaient face, et Trump et Poutine, là, ils s'entendent sur notre dos. Et donc, ça amplifie d'autant plus le fait qu'il faut qu'on prenne notre destin en main, comme Mme Merkel l'avait déjà dit, la sortie d'un G7 à Taormine en Sicile avec Donald Trump. Mais là, il faut vraiment le faire. Il faut le faire tout de suite pour aider les Ukrainiens, parce que c'est la ligne de défense. C'est très bien que les dirigeants européens aillent demain en Ukraine, hein, pour les 3 ans du conflit. Antonio Costa, le président du Conseil européen, Mme von der Leyen, quelques commissaires de son équipe. Il faut renforcer l'aide à l'Ukraine, l'aide militaire, parce qu'on en faisait déjà pas mal, hein, les Européens. Pas suffisamment, mais on les a déjà aidés. Il faut les aider plus pour soit qu'ils continuent à résister s'ils le décident, soit qu'ils soient en meilleure position au moment des négociations de paix, ou en tout cas de ce gel de conflit qui semble se profiler. Et puis au-delà de l'Ukraine, c'est nous. C'est-à-dire, autant ou pas autant, les Européens doivent en faire plus. C'est un moment historique. Ils en ont déjà fait plus, hein. En 2020, les Européens dépensaient 200 milliards pour leur défense. Là, on en est à 320. Et c'est vrai qu'il faut aller bien plus haut. Et au-delà du quantitatif, il faudrait le faire ensemble. Parce que, et ça c'est un des défis, parce que si on multiplie les dépenses dans 27 pays de manière isolée, ben on n'aura pas la taille critique que normalement on devrait avoir. Parce qu'il faut quand même rappeler, je conclue là-dessus, la Russie est une petite puissance. C'est une très grande puissance nucléaire, mais ça c'est le legs de la guerre froide, elle a 5000 ogives. Mais le PIB de la Russie est équivalent à celui de l'Espagne. Donc c'est 10% moins de 10% du nôtre. Alors on peut calculer, Jean-François Colosimo va amender. Mais enfin, nous avons une richesse supérieure à celle de la Russie. Nous avons des dépenses militaires bien supérieures à celles de la Russie. La question, c'est la volonté de mettre tout ça en ordre de bataille et de changer d'époque. Effectivement, c'est une nouvelle ère. Et là-dessus, Emmanuel Macron a raison de le dire. Olaf Scholz l'avait dit en son temps, au moment de l'invasion russe de l'Ukraine. Mais il n'a pas pu en tirer toutes les conséquences pour l'Allemagne et pour l'Europe.
C'est une nouvelle époque qui, côté américain en tout cas, a commencé il n'y a pas si longtemps. C'est-à-dire, alors même si on savait ce que Trump voulait faire, mais il n'est au pouvoir malgré tout que depuis un peu plus d'un mois. On a l'impression qu'on vient de vivre 10 ans de bouleversement. Non, c'est seulement depuis un peu plus d'un mois. Est-ce que d'abord on ne se précipite pas pour justement, en analysant le fait qu'il y a un bouleversement géopolitique, alors que peut-être que dans 2 mois, on sera à faire une analyse totalement contraire, Anne-Lorraine Bujon?
Ah non, alors je crois pas. D'abord, ça fait pas un mois, ça fait 4 ans et 1 mois. Il y a déjà eu un premier mandat Trump et il y a eu un premier mandat Trump dont on aurait dû, je crois, tirer quelques leçons et on s'est un peu rassuré.
On ne disait pas que les États-Unis ne pouvaient plus être nos alliés malgré le premier mandat de Trump.
Voilà, on s'est rassuré à bon compte avec Biden en se disant, ah mais non, mais finalement, ces États-Unis qu'on connaissait, les alliés, l'ordre international libéral, le système multilatéral, en fait, tout n'est pas perdu. En fait, ça existe encore. Et c'est là où je suis d'accord et moins d'accord avec ce que disait Jean-François Colosimo. Bien sûr, Trump ne sort pas de nulle part. Bien sûr, il renoue avec des choses qui ont été vraies historiquement aux États-Unis. Mais la différence entre un Biden et un Trump, ça n'est pas juste une différence d'habillage. Trump, c'est pas juste Biden avec l'hypocrisie en moins. C'est vraiment quelqu'un qui a renoncé à ce que, au bénéfice que les États-Unis pouvaient tirer d'être le primus inter pares dans un ordre international régulé où ils pouvaient défendre à la fois leurs intérêts et leurs valeurs. Donc c'est ça qui est fini et ça ne s'est pas passé du jour au lendemain. Et donc, est-ce qu'on se précipite en Europe quand on dit il est grand temps de prendre notre défense et notre sécurité entre nos propres mains? Non, je crois pas. Je crois que nous sommes en retard et qu'il faut mettre les bouchées doubles ou triples pour rattraper quelque chose qui aurait dû être entamé sans doute au moment où Barack Obama a annoncé son pivot vers l'Asie et qu'on a compris que l'Europe n'était plus au centre des préoccupations, qu'elle n'était plus du tout le centre du monde. Donc ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, il est urgent de faire preuve de lucidité et de pragmatisme, comme nos alliés ukrainiens, en fait. Eux sont très focalisés sur le fait de ne pas obtenir de cessez-le-feu sans accord de paix durable. Et ils ont raison, et il me semble que les Européens doivent être focalisés là-dessus, aussi.
Mais et pardon, Anne-Laure Bujon, juste avant de passer, là, faites faire réagir Jean-François
Colosimo. On a besoin de temps,
mais,
en fait.
Mais on se pose toujours un peu la question, c'est-à-dire, en gros, est-ce que les Européens peuvent se passer des États-Unis? Mais on ne pose jamais la question inverse. Est-ce que les États-Unis peuvent se passer de l'Europe? Peut-être que non, et peut-être que c'est aussi
alors,
une chance.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. L'Europe doit prendre conscience aussi qu'elle est un partenaire commercial indispensable pour les États-Unis, et y compris pour ces grandes entreprises technologiques qui sont venues nous faire la leçon à la conférence de sécurité de Munich. Donc oui, les États-Unis ont besoin de l'Europe, de son marché, de ses investissements, des échanges commerciaux, et il faut utiliser ça pour peser sur ce qui se passe. Pour ce qui est de la défense et de la sécurité européenne, moi je ne fais que relayer ce que je lis dans les journaux. Apparemment, il faut 10 ans pour construire une capacité de défense et de sécurité viable. Et donc, en attendant, il faut faire au mieux, il faut négocier avec les Américains, et par exemple, en Ukraine, il faut accepter de donner des choses, il faut accepter de donner des gages. Si cette force d'interposition, elle doit être européenne, il faut l'accepter en échange d'un soutien américain, parce que sans soutien américain, ça n'est tout simplement pas faisable.
Jean-François Colosimo.
Oui, alors que l'Europe ne soit plus au centre du monde, mais surtout qu'elle n'ait même plus d'autonomie à militaire d'intervention, c'est clair au moins depuis 1956 et l'affaire de Suez, où Nasser ayant nationalisé le canal de Suez, un Français, Britannique, pour le coup israélien, avait voulu intervenir et que ce sont Moscou et Washington qui étaient tombés d'accord pour demander aux troupes françaises et britanniques de rentrer à la maison, ce que nous avons fait. Donc ça fait il y a longtemps que nous n'avons plus en fait de capacité propre d'intervention ou limitée, et dans le cadre de la politique américaine de façon déléguée en quelque sorte. En revanche, je converge complètement avec Anne-Laure Bujon sur ce point. Oui, il y a quelque chose d'irrémédiable. Alors peut-être demain l'opposition va se lever aux États-Unis, etc. Ce qu'il y a d'irrémédiable, c'est que l'ordre libéral qu'avaient façonné les États-Unis à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, fondé sur l'État de droit, le droit international, les droits humains, enfin, etc., et sur, finalement, une forme d'obligation au multilatéralisme, cet ordre-là, il est en train d'être aboli par les États-Unis eux-mêmes, parce que les États-Unis ont considéré que cet ordre-là désormais jouait en leur défaveur, et particulièrement aussi parce qu'il leur fallait rattraper le retard accumulé sur les dénonciateurs en chef de cet ordre libéral, que sont ces néo-empires, la Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran et la Turquie. Bon. Donc, de ce point de vue-là, on a un véritable effet de bascule sur lequel on ne reviendra pas, quoi qu'il arrive à l'Ukraine ou quoi qu'il arrive ailleurs. Et de ce point de vue-là aussi, l'Amérique, je le répète, se redécouvre république impériale, césarienne, mais surtout, en fait, elle fait passer, il y a deux choses qui sont passées à mon sens. Un, c'est d'abord une alliance idéologique complètement inédite qui a son effet sur l'Europe pour le coup. C'est l'alliance du mouvement libertarien, au départ une philosophie qui est devenue l'idéologie de la Silicon Valley, avec le mouvement populiste. Et cette alliance avec le mouvement populiste, c'est dans quelque sorte voilà, les patrons des GAFA, plus les évangéliques du Midwest. Ça, c'est une composition idéologique à laquelle on ne s'attendait pas, et surtout qui semble un peu contre nature, puisqu'il y a d'un côté des super élitistes, de l'autre des super populistes. Mais ça marche, c'est ça la combinaison Trump. Et d'un autre côté, c'est le retour au mercantilisme qui a fondé les États-Unis. C'est-à-dire, vous êtes un prédateur parmi d'autres, les ressources sont rares, il faut les capter, vous protégez vos propres ressources, et vous allez en fait dérober par la force celle des autres. C'est ça ce qu'on vit comme changement à mon sens, et ce changement-là en quelque sorte il est irrémédiable sur le fait que les États-Unis contribuent en fait désormais au règne de la force brute que ces néo-empires voulaient installer. Alors ensuite, on peut disserter pendant 1000 ans de savoir si c'est une trahison des États-Unis ou si c'est conforme à la jeunesse des États-Unis, ce que je pense pour ma part.
Peut-être est-il encore possible de faire entendre raison à Donald Trump. C'est ce que va essayer de faire Emmanuel Macron. Il l'a dit hein, quand il va voir le président américain. Je vais lui dire, je cite le président français, « Tu ne peux pas être faible face au président Poutine. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta marque, ce n'est pas ton intérêt. Comment ensuite être crédible face à la Chine si tu es faible ?» face à Poutine. Alors, passons peut-être sur la forme, sur l'interpellation à venir du président américain, mais sur le fond, il a raison, Sylvie Kaufmann.
Oui, bien sûr, il a raison, mais est-ce qu'il peut être audible face à Trump? C'est toute la question. Je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit aussi. C'était combien de fois est-ce qu'on a dit autour de cette table que l'ordre libéral international était menacé? On n'a pas arrêté de le dire.
Un certain nombre de fois.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est encore pire parce que ce sont les États-Unis qui mettent le truc sur la table et disent c'est terminé, mais l'Europe, les Européens n'ont pas pris la mesure de toute façon de cette tendance lourde qui était à l'œuvre. Et ce qui est à Munich, il y a plusieurs Européens, en particulier de l'Est, qui ont dit, vous savez, tout le monde disait, c'est cette expression anglaise, it's a wake-up call, c'est un électrochoc, si vous voulez. Il faut nous réveiller.
Quand vous parlez de Munich, vous parlez de la conférence sur la sécurité
de Munich il y a une semaine. Et donc, et plusieurs d'entre eux, de ces dirigeants, ont dit, mais combien d'électrochocs il va nous falloir? Et c'est vrai. Ce qui est très déstabilisant aussi pour les Européens aujourd'hui, c'est que les États-Unis, tout d'un coup, ils se rendent compte que les États-Unis ne participent plus du même système politique que nous. C'est ça la vraie question, en plus du lâchage de l'Ukraine, c'est que nous ne sommes plus dans un monde démocratique que nous partageons. Les États-Unis sont en train de lâcher complètement la règle de droit, leur version, leur vision de la liberté d'expression ne correspond plus à la nôtre, etc. Et ils dénoncent le fait que nous restions fidèles à un modèle démocratique dont on pensait qu'il nous unissait. Donc là, je ne sais pas comment Macron peut dialoguer. Je pense qu'il n'abordera pas ce sujet avec Trump, j'imagine, puisqu'ils essaieront de parler de l'Ukraine et de la sécurité de l'Europe. Mais ce qui est en train de se jouer au-delà du lâchage de l'Ukraine, on est bien d'accord, pardon, c'est que la sécurité de l'Europe, du continent européen, risque de se décider sans nous, sans les Européens, sans que les Européens soient associés à cette négociation. Et c'est ça qu'il faut absolument éviter.
La sécurité de l'Europe, elle passe par des investissements en matière de défense. Yves Bertoncini, est-ce qu'elle passe aussi par un sursaut, enfin, je ne sais pas si sursaut est le bon terme d'ailleurs, mais par une dimension, disons, psychologique, c'est-à-dire aussi se préparer à ce que le continent puisse se retrouver impliqué dans une guerre?
Psychologiquement, oui, c'est comme un saut quantique, mais le saut quantique, c'est instantané, sauf que comme l'a très bien rappelé Anne-Lorraine Bujon, en matière de défense, il faut au moins 10 ans. En tout cas, oui, il y a un stress qui est un peu proche de celui de la crise de Suez que j'allais aussi évoquer. La crise de Suez, c'était quand même que les Américains et les Soviétiques s'entendaient sur notre dos pour nous priver de l'accès à des matières premières critiques déjà à l'époque, sauf que c'était le pétrole et le gaz, et qui s'en accommodaient. C'était un changement de système et c'était une blessure d'amour propre et plus que ça pour les Anglais et les Français. Le traité de Rome est arrivé juste après, ce n'est pas un hasard. Les Européens se sont dit, il faut que de ce stress sorte quelque chose, et on a eu les deux traités de Rome, marché commun, Euratom. Aujourd'hui, je pense que de ce stress va sortir un sursaut européen, mais que ça prendra du temps. Et à l'intention d'Emmanuel Macron et des Français, je dirais qu'il faut faire un parallèle avec ce qui s'est passé dans le moment fondateur de l'après-guerre froide. Chute du mur de Berlin, que faisons-nous, nous Européens? Est-ce qu'on reste ensemble? Oui, on fait l'Union Européenne et on fait l'euro. Mais pour aller vers l'euro, c'était un partage de souveraineté, il a fallu 10 ans. Et il a fallu des critères de convergence. Eh bien, c'est la même chose pour la défense européenne. Ne croyons pas que nous, Français, nous étions dans une posture prophétique et avions tout vu, tout su avant tout le monde. Nous allons devoir, nous aussi, partager notre souveraineté si nous voulons qu'une Europe de la défense advienne. L'Europe de la défense, ce n'est pas la France de l'armement.
L'Europe de la défense, d'ailleurs, elle peut se faire avec le Royaume-Uni qui est sorti de l'Union européenne.
Bien sûr, c'est un acteur très important. Pas forcément l'Union européenne, parce que dans l'Union européenne, il y a des pays d'abord pro-russes, il y a des pays neutres aussi, comme l'Autriche et l'Irlande. Il faut trouver des mécanismes, mais il faut une convergence. On parle souvent de la convergence financière. Au moins 2% de dépenses de PIB. Par exemple, l'Espagne et l'Italie en sont très loin. Il faudrait qu'elles montent leurs dépenses. Il y a aussi des dépenses européennes qu'il faut faire. Un emprunt commun, il faut des convergences industrielles, parce qu'une fois, un avion de combat du futur est en projet entre les Français, les Allemands et les Espagnols, eh bien, il faut du temps pour le construire, parce que sinon les Allemands continueront à acheter l'avion de combat européen qui s'appelle l'Eurofighter, Tycoon, c'est pas le Rafale, l'avion de combat européen, et puis de surcroît, mais là c'est un risque qu'ils prendraient, des F-35 américains, parce qu'ils chargent les ogives nucléaires américains. Ça peut être aussi des convergences sur le plan de l'usage de la force nucléaire. c'est un atout de la France. Va-t-elle l'européaniser d'une matière ou d'une autre? Eh bien, ça, c'est en discussion. Des convergences opérationnelles, institutionnelles, un état-major européen, en tout cas, tout ça prendra beaucoup, beaucoup de temps, y compris en France, même si nous sommes un pays leader, parce qu'il n'est pas certain que nos compatriotes soient prêts à tous ces efforts et à tous ces partages de souveraineté, alors même que leur président, et ça on peut lui accorder, avait vu, depuis son discours de la Sorbonne, qu'il faut faire advenir une forme de souveraineté européenne. Mais elle ne tombera pas du ciel. C'est un partage de souveraineté nationale dont on a besoin. Et il faudra que les Allemands y participent aussi.
Discours de la Sorbonne, c'était en 2017, hein, me semble-t-il, oui. sur l'Europe. Anne-Laurent Bujon.
Oui, juste un mot pour dire que, en effet, je pense qu'une partie des enjeux sont des enjeux psychologiques et de sortir pour de vrai du déni maintenant. Et je voulais juste rapporter une formule de François Godemont dans un article qu'il a fait pour l'Institut Montaigne parce que je l'ai trouvée terrible et terriblement parlante.
C'est un chercheur spécialiste de la Chine.
Spécialiste de la Chine. Et il disait, le moment est venu pour l'Europe de se rendre compte que c'est pas juste qu'elle n'est pas à la table des négociations, c'est qu'elle est au menu.
Oui, ça c'est l'expression.
Alors, dans cette Europe, il y a un pays dont on a à peine évoqué le nom et qui, aujourd'hui, vote, c'est l'Allemagne, des élections législatives anticipées, avec assez peu de chances hein, pour le chancelier en place, Olaf Scholz, le social-démocrate, d'être reconduit, puisque en tout cas, dans les intentions de vote, il est assez loin derrière les chrétiens-démocrates de la CDU et Friedrich Merz, qui pourraient lui succéder, et derrière également l'extrême droite, l'AfD d'Alice Weidel, l'AfD qui a néanmoins reçu un soutien important, puisque après son discours à la conférence sur la sécurité de Munich, le vice-président américain J.D. Vance a eu la bonne idée d'aller lui rendre visite pour discuter, et ce qui a provoqué cette réaction d'Olaf Scholz.
L'AfD est un parti dont les rangs minimisent le national-socialisme et ses crimes monstrueux. C'est pourquoi nous n'accepterons pas que des personnes extérieures interviennent dans notre démocratie, dans nos élections et dans la formation démocratique de l'opinion au profit de ce parti.
Sylvie Kaufmann, est-ce qu'il y a un lien entre la discussion qu'on vient d'avoir sur ce bouleversement des alliances et sur les enjeux des élections en Allemagne aujourd'hui ?
Oui, absolument. Et j'ajouterais, non seulement J.D. Vance a rencontré Alice Weidel, la candidate du parti d'extrême droite AfD à Munich, mais il a fait ça après avoir refusé de rencontrer le chancelier Scholz. Donc l'injure était double. Oui, je crois que pour l'Allemagne, c'est un moment, on a décrit le malaise des Européens et le défi pour les Européens. Pour l'Allemagne, je crois que c'est encore pire, parce que en 3 ans, elle a perdu 2 piliers de sa politique étrangère. La Russie d'abord en 2022, donc ça a été le premier choc avec l'invasion de l'Ukraine qui a provoqué une révision profonde de la relation germano-russe qui est une relation fondée vraiment très structurante, très importante en Europe, et a obligé l'Allemagne à abandonner complètement son lien énergétique, qui était devenu une dépendance coupable, son lien énergétique avec la Russie. Donc l'Allemagne a dû se débarrasser pratiquement du gaz russe en l'espace d'un an, et surtout perdre toutes ses illusions sur la Russie. Et 3 ans plus tard, la même chose lui arrive de manière plus grave, puisque là, la Russie n'était pas un allié évidemment de l'Allemagne, tandis que les États-Unis, c'est vraiment c'est existentiel pour l'Allemagne. C'est vraiment l'Allemagne était totalement sous la protection en termes de sécurité, sous la protection des États-Unis, avec des dirigeants politiques qui ont toujours été très atlantistes en général. Et donc là, on arrive à un moment où on entend le chancelier Merz, pardon, le futur sans doute, le probable futur chancelier Friedrich Merz, qui a dit vendredi, il faut se préparer à l'éventualité que Trump ne respecte plus l'engagement de l'OTAN à la défense collective, c'est-à-dire enfin, à l'article 5. Les Français ont souvent soulevé la question d'une extension de leur protection nucléaire au reste de l'Europe. Je crois que maintenant, il faut que nous parlions, que nous soulevions cette question avec le Royaume-Uni et la France, c'est-à-dire le partage de leur protection nucléaire. Donc ça, c'est vraiment c'est un pas énorme pour l'Allemagne en quelques semaines de mettre ça, ce dossier sur la table. Et Évidemment, il y a ce danger de l'AFD. On va voir quel sera le score de l'AFD ce soir. Mais dans les sondages, elle est autour de 20%, ce qui est déjà énorme parce que les dernières élections en 2021, c'était 10%. Visiblement, l'AFD se prépare à doubler son score ce soir dans un pays comme l'Allemagne, ce qui est extrêmement significatif. Et si jamais et avec le soutien des États-Unis. Donc, je crois que vraiment, ce paysage politique et stratégique pour l'Allemagne est extrêmement déstabilisant.
Jean-François Colosimo, l'attitude que vont avoir les Européens par rapport à la Russie et par rapport aux États-Unis dépend aussi du résultat des élections allemandes aujourd'hui ?
Alors moi, je pense, j'écoutais ce que disait Yves avec attention, je pense que cette espèce de choc, de révolution qu'on subit, pose une question fondamentale sur l'Europe aussi, parce que c'est pas l'Europe à 27, avec M. Orban qui a un droit de veto, c'est pas l'Europe à 27 avec Luxembourg qui n'a pas du tout envie d'avoir une arme nucléaire quelconque, enfin, etc. Donc on retombe un peu sur le problème, c'est quoi l'Europe, et quelles sont les puissances qui comptent, et est-ce que ces puissances peuvent articuler une politique qui sera bénéfique à de plus petites nations, mais ces petites nations qui sont souvent l'enjeu de grandes manipulations ou manœuvres internationales, il ne faut pas effectivement qu'elles soient un obstacle, n'est-ce pas ? Alors moi, je crois que ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, vraiment, le grand phénomène, c'est que l'Allemagne, oubliez l'Allemagne, je veux dire, l'Allemagne va très très mal, on le voit, n'est-ce pas ? Elle fait plus que mal aller, puisque tout de même, je veux dire, Madame Wiedel, elle représente une idéologie qui n'est pas simplement extrême droitière, n'est-ce pas ? Il y a vraiment des relents du pire passé de l'Allemagne qui sont diffusés, et manifestement, elle, au moins, n'a pas envie de se normaliser. Donc la grande nouvelle pour moi, c'est le retour de l'Angleterre. Parce que vous voyez, nous, Français, nous n'avons jamais eu le choix qu'entre trois alliances. L'alliance continentale avec l'Allemagne, mais on sait qu'elle est en panne depuis longtemps. L'alliance maritime atlantique avec l'Angleterre, mais l'Angleterre était partie. Mais elle-même, elle est inquiète du tour que les affaires prennent aux États-Unis, et elle est de retour. Or, c'est ça qui est important. Elle aussi est une puissance nucléaire, n'est-ce pas ? Vous voyez, parce que ce serait un peu compliqué tout de même que la France partage sa puissance nucléaire qui est liée à la souveraineté politique avec des pays sur lesquels elle n'aurait pas, en fait, de véritable pouvoir. La distribution avec l'Angleterre peut régler tout de même un tout petit peu ce problème. Et pour finir, la troisième alliance à laquelle on avait recours, c'était l'alliance de revers avec la Russie. Mais la Russie, évidemment, il ne faut plus y compter. Mais la Pologne, aujourd'hui, est un pays qui, militairement, compte, va de plus en plus compter. C'est un pays qui, lui, est dans la conscience très forte de l'avancée de Poutine. Et donc, je dirais qu'on peut reconstruire avec la France, l'Angleterre, la Pologne, et certainement ensuite des pays comme l'Italie, l'Espagne, qu'il faudra tout de même entraîner à notre suite. Mais c'est une Europe plus restreinte que celle qu'on avait rêvée. Et quelque part, c'est tant mieux parce que c'est plus logique.
Yves Bertoncini, Jean-François Colosimo vient de nous dire l'alliance avec l'Allemagne, elle est vraiment en mauvais état. Mais est-ce que l'arrivée des conservateurs de Friedrich Merz au pouvoir n'aurait pas, peut-être, ça serait pas l'occasion de relancer cette relation et ce fameux couple franco-allemand, objet évidemment de beaucoup de fantasmes, mais avec peut-être davantage de convergence idéologique entre Paris et Berlin ?
Oui, je pense que ces élections arrivent à point parce que l'Allemagne était en grande difficulté. Sylvie Kaufmann a rappelé les deux ébranlements russes d'abord, américains récemment. On aurait pu rappeler la Chine aussi au moment de la pandémie, le raidissement des autorités chinoises.
Donc
les trois piliers du modèle économique allemand ébranlés en même temps dans une coalition tripartite qui était brinque-ballante. Et que, il faut le dire, Olaf Scholz a décidé de mettre en l'air le lendemain de l'élection de Donald Trump, parce que Lindner, le libéral, ne voulait pas faire les investissements nécessaires à la fois dans la transition écologique et dans la défense. Ce soir, les Allemands vont délivrer un verdict. On verra. Il est quand même probable que la CDU-CSU l'emporte dans une coalition. Il faut le souhaiter à deux. C'est plus facile, une coalition à deux qu'à trois. Ça dépendra du score des petits partis, s'ils dépassent les 5% ou pas. Et sur cette base, pour répondre à votre question, l'Allemagne pourra d'abord essayer de remettre de l'ordre dans son économie, ses finances et le reste, et se tourner peut-être davantage vers les partenaires européens qu'elle ne l'a fait du temps d'Olaf Scholz. La bonne nouvelle...
Juste une petite parenthèse. Vous parlez de coalition. Une coalition entre la CDU, CSU, alors c'est la CDU bavaroise,
oui.
Et l'AFD. Et l'AFD, est-ce que ça c'est totalement exclu ?
Non, alors justement, vous m'amenez sur le terrain idéologique. Je pense que les Américains s'y sont très mal pris de manière grossière et qu'ils se sont attaqués à l'Europe par la face nord. Parce que soutenir l'AFD, qui est un parti qui ne fait effectivement aucun effort de normalisation, c'est pas comme le Rassemblement National en France qui fait croire que il est différent, que Mme Meloni qui est en Italie a pris un tournant post-fasciste. Non, eux, c'est vraiment répulsif. Je ne crois pas du tout que d'abord les Allemands se donneront de manière démocratique à l'AFD et ni qu'un autre parti conservateur fera alliance avec eux. C'est bien d'ailleurs là-dessus qu'a insisté Vance. Si c'est bien que l'AFD ne veut pas gagner, il a dit il faut casser le cordon sanitaire. Il y a beaucoup d'Allemands qui ont de la mémoire qui ne veulent pas casser ce cordon sanitaire. Donc ça, c'est un peu, je dirais, la bonne nouvelle, même si le risque, c'est que l'AFD plus puissante, n'étant pas au pouvoir, infuse ses idées sur ceux qui sont au pouvoir. L'autre bonne nouvelle, je voudrais vous me parliez du franco-allemand, mais on peut l'étendre à la Pologne, c'est que les Allemands, pour réarmer, pour muscler leur jeu, ont besoin de le faire dans un cadre européen et international. C'était déjà le cas dans les années 50. On ne voyait pas revenir des uniformes allemands comme ça. La communauté européenne de défense s'était faite pour organiser le réarmement allemand. Nous l'avons refusé. C'était l'OTAN. S'il n'y a plus d'OTAN ou s'il y a moins d'OTAN, les Allemands vont devoir monter en puissance de manière claire, parce qu'ils sont en danger, et ils auront besoin de partenaires comme la France, comme la Pologne, pour faire des programmes d'armement, pour faire des corps expéditionnaires conjoints. Et c'est en cela que je dis qu'il faudra que les autres répondent à cette main tendue des Allemands et donc acceptent, et ça vaut pour nous aussi les Français, de partager un peu de leur souveraineté pour faire advenir une véritable Europe de la défense.
Anne-Laurine Bugeon.
Oui, moi j'observe ce qui se passe en Allemagne avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'inquiétude, je crois, comme nous tous, et en me disant qu'il y a beaucoup de similarités en fait avec la situation politique en France, la disqualification de la gauche sociodémocrate, des questions écologiques, la polarisation, la prime aux extrêmes, cette tentation de l'union des droites, donc peut-être pas directement dans une coalition AFD-CDU, si vous dites que c'est totalement impensable, mais au moins dans la contamination des idées, la place qu'a pris la question de l'immigration au détriment des inégalités socio-économiques dans tout le débat électoral, tout ça fait que l'Allemagne est un peu comme nous. Elle est aussi très différente avec son système fédéral, sa culture de la coalition, du compromis. La place de la Russie, des États-Unis, de la Chine dans son mix économique. Et puis, sa mémoire historique, et je crois que c'est très important là dans ce contexte électoral, on nous parle par exemple de l'Office de protection de la Constitution. Moi, je trouve ça très intéressant parce que les Allemands sont très bien placés pour savoir qu'il suffit parfois de 3, 4, 5 ans pour ne plus être une démocratie, que ça arrive de la manière la plus démocratique du monde, en apparence, par le jeu des urnes, mais que quand on organise ça, une sorte de démocratie plébiscitaire, et nous voici de retour à Carl Schmitt, au mépris des contre-pouvoirs, des juges, de la règle de droit, de la presse, on bascule très vite dans un autre régime. Et donc les Allemands ont des garde-fous très forts. En raison de cette mémoire historique, il y a ce cordon sanitaire, il y a cette impossibilité de travailler avec l'AFD, pourvu que ça tienne, parce que les États-Unis nous disent aussi que le changement de régime, ça peut aller très vite.
On aurait pu poursuivre cette discussion encore un moment, mais vous l'entendez, c'est le générique de fin. Merci Sylvie Kaufmann, Jean-François Colosimo, Anne-Laurine Bugeon et Yves Bertoncini de nous avoir éclairés sur les bouleversements du monde. Cette émission a été préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée par Luc Jean Reynaud. À la prise de son, il y avait Jean Guilain-Meige. On se retrouve dimanche prochain à 11h.